et auquel il réagit de manière disproportionnée comme réagirait un enfant avec une violence d'enfant. Et s'il mérite d'être puni pour ce qu'il a fait, il ne mérite pas de l'être trop durement. Tous les torts ne sont pas de son côté, et il est sûrement désolé de ce qu'il a fait.
« Oh, je suis bien certaine qu'il est désolé, » dit Séverine Bogossian. « Et la famille d'Alban Genevet sera ravie et soulagée de l'apprendre, » pense-t-elle. Parce qu'on peut bien se montrer désolé d'avoir accidentellement marché sur les pieds de quelqu'un, d'avoir oublié de lui tenir la porte ou d'avoir haussé inutilement la voix au cours d'une discussion. On peut certes être utilement désolé pour des tas de choses, mais la tentative de meurtre avec préméditation n'en fait pas partie, en aucun cas. Après un moment de silence, elle ajoute « Vous savez, ça ne sert pas à grand-chose de me dire tout ça, madame. Je ne suis pas son juge. Et heureusement pour lui, » pense-t-elle encore. La mère d'Alexandre regarde la gendarme dont l'hostilité est maintenant palpable. Elle soupire, ferme les yeux et demande doucement « Et le garçon qui est à l'hôpital, comment va-t-il ? Je suis heureuse de constater que ça vous intéresse, » remarque sèchement Séverine Bogossian. « Bien sûr que ça m'intéresse, » répond la mère d'Alexandre d'une voix égale. « Je souhaite qu'il s'en sorte, croyez-moi, je le souhaite de toutes mes forces. Je prie pour lui, vous savez ? Même si je ne crois plus en Dieu depuis longtemps, je prie pour sa survie. Parce que s'il survit, mon fils ne sera pas un assassin, et vous ne pourrez pas le poursuivre pour assassinat. Et si c'était sa mort qui pouvait aider mon fils en lui évitant des années de prison, c'est pour sa mort que je prierai. Parce que je vous dirai franchement qu'en ce qui me concerne ce garçon, il peut mourir deux fois. Mon père mourut trois jours après ma rencontre fatidique avec les Australiennes. Il reprit momentanément conscience le lendemain de son hospitalisation alors que je m'étais enfermé dans les toilettes de sa chambre pour me livrer à un examen minutieux de mon intimité. J'étais en train de scruter avec anxiété un petit grain de beauté à la pâleur suspecte dont je n'avais jamais remarqué l'existence auparavant quand j'entendis ma mère crier mon prénom. Je me rhabillai en me promettant de reprendre mon analyse dès que j'en aurai l'occasion et sortis la rejoindre. Mon père avait ouvert les yeux et regardait autour de lui d'un air hagard. Il était manifestement incapable de parler et semblait très agité, mais quand je me penchai vers lui en murmurant « Papa, c'est moi », il esquissa un sourire qui, pour la première fois depuis son accident, me fit monter les larmes aux yeux. Et puis, il se mit à geindre, d'abord tout doucement, puis plus fort, et sans discontinuer. Ma mère partit à la recherche d'un membre du personnel médical. Elle revint accompagnée d'un médecin qui nous expliqua que mon père souffrait de ses fractures et lui prescrivit de la morphine. Le traitement ne fit pas la preuve de son efficacité et pendant les 30 heures qui suivirent, ma mère supplia sans relâche qu'on augmentât la dose. Dans les toilettes où je me réfugiais à intervalles réguliers, je n'entendais plus les gémissements de mon père que comme une lointaine ritournelle, à peine distincte. Je pouvais m'abandonner à mon hypocondrie, reprendre mon entreprise de cartographie pénienne et grimacer d'anticipation, juste avant d'uriner, dans l'attente d'une brûlure que je ne devais jamais ressentir. Pendant tout l'été pourtant, je me fis prescrire des examens dont j'attendais les résultats avec terreur, mais qui ne révélèrent jamais la moindre trace d'infection, ce qui ne me rassurait pas car la perfide vérole australe qui me dévorait de l'intérieur ne pouvait, j'en avais alors la certitude, être détectée par les protocoles classiques des laboratoires d'analyse, quoique notre médecin de famille m'assura du contraire maintes fois avant de finir par refuser de me recevoir davantage au prétexte que mon cas relevait de la psychiatrie. Mon père ne redevint silencieux que quand un deuxième AVC le plongea dans une inconscience si profonde que la douleur ne pouvait plus l'y tourmenter. Il mourut quelques heures plus tard. « Il est parti, » dit ma mère en baisant ses lèvres froides. « Il nous a quittés. » Mais je savais que ce n'était pas vrai. Il n'était pas parti. Il était là, juste devant nous. La chemise de nuit avait glissé sur son épaule nue. Je voyais la clavicule saillante et blafarde comme un pilon de volaille à l'étal du boucher. Les mailles des dents sous les lèvres retroussées et jamais la présence de mon père ne m'avait semblé si massive et dense, si bêtement matérielle. Le lendemain, nous quittâmes la ville et le bord de mer pour monter l'enterrer au village. Après la messe, quand la pierre fut posée sur le tombeau, je savais encore qu'il était là et que jamais plus il ne serait ailleurs. Je n'osais pas regarder Catalina, si belle dans ses habits de deuil, tenant Alexandre par la main. Je me sentais souillé comme si je vivais.